Et bienvenue sur le 89.5 sur Radio Dio. Voici le deuxième numéro de Joie, Rage et Courage. Au programme de cette émission, on va vous parler de jardin ouvrier et puis de plus largement de lutte maraîchère en ville. Au programme du coup un petit historique des jardins ouvriers sur Saint-Thé. Et puis après on ira rencontrer des jardiniers et on ira un peu plus loin voir ce qui se passe du côté de Dijon avec le quartier libre des Lentillères. En attendant l'intro, on peut vous rappeler que vous pourrez retrouver toutes les informations et les sources de cette émission sur le site Joie, Rage et Courage. Allez, sans transition, place à l'intro et au jardin.
Des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone.
Oh, Pierre dans Joie, Rage et Courage. Mais on hallucine ou quoi là?
Améliorera. Tel est le commandement adapté aux difficultés de l'heure. Partout, la banlieue parisienne a vu naître et croître de nombreux potagers, cultivés chaque dimanche avec amour et gourmandise.
Dans le potager, là, ouais, on lutte dans le potager. On ne peut pas s'arrêter, de lutter.
C'est bien qu'il y ait un endroit à Dijon où il y a encore des terres maraîchères et qu'on a encore un petit espace vert, libre, et je ne veux pas qu'il y ait du béton à la place. Et on rencontre plein de gens, il y a une mixité aussi sociale, je trouve, et enfin, plein de rencontres, plein de richesses.
Et voilà une petite intro avec, vous avez bien entendu, du Pierre Perret. On aura tout vu. Aujourd'hui, on va vous parler des jardins ouvriers. En fait, on va partir des jardins ouvriers pour après aller un peu plus loin sur la réappropriation de l'espace, le besoin de verre, la réappropriation, les tentatives de réappropriation du pouvoir de ces envies-là. Et puis, une expérience... on va dire autogestionnaire d'un espace vert du côté de Dijon et d'une lutte plus largement contre la construction d'un écoquartier dans le quartier des Lentillères. Donc rapidement l'historique des jardins ouvriers, ça s'était créé du côté de Sedan à la fin du 19e siècle et par un abbé et ça s'est rapidement développé du côté de Saint-Thé avec un autre abbé, le père Volpette, qui donne son nom à une asso qui gère plein de jardins ouvriers. Et rapidement, les jardins ouvriers se sont développés et avec un gros rebond encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ces espaces verts qui sont super importants sur Saint-Thé, on en compte... les chiffres, on en compte 3180 parcelles et 89 hectares, ces espaces se sont fait réapproprier par les habitants et voilà, on va vous reprendre quelques archives quelques archives qui reprennent un peu un historique de ce développement.
C'est à l'humanisme militant de l'abbé Lemire, noble figure parlementaire et fondateur dès 1896 de la Ligue française du coin de terre et du foyer, que l'on doit dans les premières années du siècle l'éclosion et la floraison des jardins ouvriers. Dans l'esprit de leur créateur, cette innovation, tout en étant souhaitable, n'était pas accessible à tous. Et il ajoutait, il n'est pas nécessaire de posséder la terre en propriété pour en recueillir les bienfaits. Une jouissance précaire peut suffire à les procurer. Et le brave abbé ajoutait en toute candeur, entre deux lectures de missel, le jardinage exerce tous les membres du corps de l'homme. Il met en œuvre toutes les facultés de son esprit. Il l'oblige à lever la tête vers un infini qui nous dépasse. Par un bon mois de juillet, c'est la consécration. Le président de la République lui-même, M. Poincaré, honore de sa présence l'œuvre de l'abbé Lemire. Après quelques petits pas de danse, Monsieur le Président se retire en laissant une grande joie et une impérissable reconnaissance dans les cœurs de ses jardiniers d'occasion. Dès lors, c'est le rush sur cette nouvelle panacée à toutes les plaies sociales. Un éminent sociologue déclare, en s'occupant de son jardin, l'ouvrier prépare un avenir de paix et de concorde et devient un citoyen propre et rangé, travaillant à l'apaisement des passions des masses et à la tranquillité et à la grandeur de la patrie. Rien d'étonnant que ce même phénomène retrouve, pénurie aidant, toute sa fraîcheur de 40 à 44 sous le nom de Jardin du Maréchal.
Dans toute la France, on le sait, les grandes entreprises ont été invitées à créer des jardins collectifs pour en distribuer la production à leur personnel. Les ouvriers et employés de la corporation de l'automobile pouvaient-ils trouver un endroit plus propice que les abords de l'autodrome de Montlhéry? 51 hectares ont été cultivés, ce qui a permis de distribuer à chacun des 80 000 ouvriers de la corporation 5 kilos de pommes de terre. Il faut souhaiter que pareille organisation, qui permettra d'apporter une certaine amélioration aux difficultés actuelles de l'approvisionnement, soit imitée par de nombreuses collectivités.
Ça vous est certainement arrivé, comme à nous tous, en sortant d'une ville quelconque en France, d'être étonné par le fait que, en pleine ville ou presque en pleine ville, au milieu de faubourgs dus à la grande urbanisation de la ville en question, il y avait tout d'un coup des potagers, des jardins, enserrés dans la ville, mais miraculeusement épargnés par la spéculation sur le terrain. Les jardins étaient restés là, les potagers, comme au début de ce siècle. Vous savez comment ça s'appelle, ce sont des jardins ouvriers.
Et donc voilà, trois archives, trois époques, trois étapes de la constitution des jardins ouvriers. Et à chaque fois, on voit l'évolution des objectifs des autorités pour la construction de ces jardins. Alors la première période, c'est en tout cas sur Saint-Étienne, c'est l'abbé Volpette qui instaure ces jardins pour donner certaines terres, mais aussi pour contrôler un peu plus les ouvriers. Alors on va expliquer ça. Dans l'archive, il parle que ce jardin a pour vocation de lutter contre les plaies sociales. Alors les plaies sociales, selon l'abbé Volpette, c'est l'alcool et ces ouvriers qui passent leur temps libre dans les bars, mais pas seulement les bars, ils passent leur temps aussi libre à discuter avec d'autres et notamment des discussions politiques et des discussions autour de leurs conditions d'ouvriers et aussi du coup de révolte. Du coup, l'abbé Volpette, ce qu'il cherche, c'est de détourner les ouvriers de ces de ces lieux, qui concernent des lieux de perdition. Et il instaure ça aussi, pas n'importe où, il instaure ça dans quelques quartiers dans un premier temps, et des quartiers où il y a particulièrement une très forte revendication et révolte, notamment le quartier de Côte-Chaude, et aussi où il y a des tensions entre ouvriers. C'est-à-dire qu'il distribue certaines parcelles de terre, mais pour cela, il faut déjà être français, et puis aller à la messe, être ouvert aux différentes travaux de propagande de l'Église. Cette volonté de l'abbé Volpette, il a été rapidement relié par certains entrepreneurs et chefs d'entreprise du bassin stéphanois qui ont bien vu l'intérêt de proposer ces terres à des ouvriers. Et pour attacher l'ouvrier à l'usine, pour le rendre dépendant de son employeur, pour occuper les ouvriers loin et les amener loin de discussions politiques et des réunions syndicales, et aussi pour leur donner un terrain qui pourrait leur apporter, s'ils travaillent bien la terre, un revenu de substitution, et du coup de calmer un peu les ardeurs revendicatives des ouvriers. Du coup, les employeurs, notamment les mines, mais pas seulement, aussi l'industrie de l'acier, et puis mais aussi la SNCF, etc., ont développé ces jardins. Alors ces jardins, ça s'est rapidement développé, comme on peut l'entendre, avec même la visite de Poincaré en 1933 dans ces jardins. Et du coup, ces jardins, ils étaient toujours réservés aux ouvriers, mais aux ouvriers français. Donc ce qui excluait les personnes de nationalité étrangère, et aussi aux personnes qui allaient régulièrement à l'église, et qui du coup avaient un comportement correct selon les désirs des autorités. Bref, sur Saint-Étienne, ça s'est particulièrement développé aussi parce que les ouvriers, les masses d'ouvriers qui venaient s'installer sur Saint-Étienne pour travailler, la plupart venaient de zones agricoles et rurales. Et du coup, ils avaient une certaine connaissance de la terre et de travaux maraîchers. Et du coup, ils étaient particulièrement intéressés par garder ces activités et qui leur donnaient un complément de salaire. Et la Seconde Guerre mondiale est arrivée, et avec ça, les difficultés d'approvisionnement et de nourrir les habitants. Du coup, le maréchal a développé lui aussi ses terres agricoles, avec toujours derrière une arrière-pensée religieuse, et puis un travail de la terre, la terre-mère, et un développement aussi des activités familiales, donc travail, famille, patrie, le fameux trident de la France sous l'occupation, et peut-être pas seulement. Et du coup, ce travail, le maréchal Pétain a énormément développé les jardins ouvriers, à tel point qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on comptait sur Saint-Étienne près de 15 000 jardins ouvriers et jardins familiaux. Et ça, c'est la troisième archive qu'on a passée avec un lancement d'un reportage sur les jardins ouvriers fait par Philippe Gildas à la télévision. C'était la période des années 60, 50-60. Il faut construire en ville, il faut urbaniser. Et du coup, on va urbaniser sur quoi ? On va urbaniser sur les jardins et sur les terres maraîchères qui sont possédées par les ouvriers. Donc pour ça, on réduit le nombre de parcelles, on réduit leur taille, et du coup, on rogne sur ces espaces que les ouvriers s'étaient réappropriés. Réappropriés à tel point que il y a eu de nombreuses réquisition de Lepin Et notamment ben, par des travailleurs migrants, notamment d'Afrique du Nord, etc., qui se sont appropriés des terrains et réquisitionnés et qui ont, les ont transformés eux aussi en jardins. Et ce qui leur a apporté des compléments de salaire, sachant que de nombreuses aides et revendications et améliorations salariales eh ben, ne les concernaient pas étant des ouvriers étrangers. Et du coup, c'était un important espace de lutte sur qui allait avoir droit à avoir des jardins et à qui allait avoir l'appropriation des terres, c'est-à-dire soit par les personnes qui en avaient besoin et qui s'étaient intéressées à cette pratique pour un complément de salaire, mais aussi pour des raisons familiales et sociales, et aussi les urbanistes qui en avaient besoin pour construire des bâtiments et des quartiers comme du côté de La Métard, Beaulieu, etc. Et donc voilà tout l'enjeu de la réappropriation de l'espace. Depuis, les jardins, l'espace des jardins diminue. Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a plus que 3180 parcelles. Mais 3180 parcelles, c'est énorme. Et Saint-Étienne, c'est une ville particulièrement où les jardins sont particulièrement implantés. Et du coup, ces espaces, on va le voir avec une interview d'un jardinier Malek. Ces espaces de un peu de où les gens se retrouvent et construisent d'autres choses et voilà, donc on va l'interviewer et l'interview porte du coup sur son rapport au jardin, son rapport au jardinage la démarche collective et son sentiment de qui peut avoir de liberté on ouvrira ensuite sur la question de l'uniformisation des jardins qui est mis en place de plus en plus par les pouvoirs publics. Allez hop, on va écouter Malek.
C'est vraiment festif, fin novembre, décembre, donc ça coïncidait pas aux vacances scolaires d'hiver, et ça m'a marqué en fait, si tu veux.
Ça,
c'est en cabinet quand j'étais petit. Voilà, donc on y va en famille, les gamins. Des fois, même des familles, on s'est un peu éparpillé. Et le moment de ramasser les oliviers, c'est tout le monde qui se réunit, quoi. Donc, ouais. Même s'ils sont dans une autre ville et tout, ils reviennent pour ramasser les olives. Et ça m'a vraiment marqué. De quoi arriver à un certain âge aussi, en adolescence et tout, ça m'a pris, quoi. Et j'avais vraiment envie de coup on faisait un peu, on avait un petit espace où on faisait du jardin, quoi, jardinage en famille et tout. Et voilà, c'est pour ça, j'ai toujours aimé ça. En arrivant en France quand même, il y avait une petite coupure et incertainement avec les potes, ça m'est revenu directement, quoi. Donc certainement il y a un pote qui a récupéré un jardin et comme on a parlé, il me dit voilà, j'ai récupéré un jardin, mais pour le faire tout seul, c'est pas. Enfin, il n'avait pas le goût, il voulait vraiment un truc qu'on le fasse un peu ensemble et j'étais directement partant. Ah.
Du coup, dans votre jardin, vous êtes combien là ?
À la base, on était deux au début, enfin trois même, avec un autre pote. Après, le pote, il est parti vite fait, en fait, il n'est pas resté trop longtemps. Et après, on l'a fait à deux. Et là, l'année passée, c'est un ami qui vient de Bretagne, donc qui se rejoint à nous. À chaque fois qu'il a envie, il vient. Passe nos idées et tout, et là il est avec nous. Et il y a une amie aussi là qui va se mettre normalement avec nous aussi.
Cool.
Pour l'année prochaine, ça doit être.
Et c'est un grand jardin.
Un grand jardin, donc ça fait, je l'avais dit déjà, niveau superficie, ça fait, je sais pas, 500, même un peu plus.
Ouais.
Donc c'est l'équivalent de deux jardins.
Et sur votre jardin, vous avez une cabane ?
On a une cabane, une grande cabane. Ouais. Donc on est arrivé, elle était un peu. Donc on a fait. Il y avait du boulot à l'intérieur pour un peu l'aménager.
Ouais.
Et tout, c'est une grosse cabane en fait.
Et souvent, vous vous posez là-bas, c'est un lieu où, genre, c'est boulot-boulot ou c'est un lieu où il y a aussi.
Ah non, pas du tout boulot-boulot, au contraire. Au contraire, parce qu'on le fait juste ça, le but aussi d'être un peu plusieurs, c'est à l'envie, c'est au goût. C'est vrai que la première année, c'était quand même du boulot, donc on est allé un peu, on a forcé un petit peu, mais après, sincèrement, non. c'est vraiment tranquille, quoi. La poule, c'est... Moi, ça m'arrivait souvent à, voilà, d'y aller, mais c'est juste pour y aller, prendre un livre, m'asseoir, lire là-bas, passer toute une après-midi et redescendre vraiment à la nuit, quoi. Donc, c'est après, petit à petit, quoi, on faisait les choses tout doucement, quoi. Ouais. T'as des jardins en bas, un peu plus haut, ouais, ça fait quand même une grande... Il y a beaucoup de jardins.
Et c'est côté relations avec les voisins
C'est nickel, quoi. C'est nickel parce que nous, on est arrivé, si tu veux, quand même. Moi, quand je t'avais dit, même si je connaissais un petit peu, mais c'était vraiment basique, c'est. Voilà, c'est pas. Mais franchement, si, il y a des anciens là-bas, ils sont venus vraiment comme ça directement quand on s'est installé, nous donner des conseils pour les plants, mais à chaque fois, ils nous proposent des plants, des graines. Ils viennent, ils nous montrent, c'est comme ça, voilà, quoi, c'est naturel, quoi.
Ouais.
Donc on a deux, trois voisins, franchement, c'est à chaque fois, ils nous proposent des choses. Arrivé au moment justement de planter, bah, t'as des tomates qui arrivent, des poivrons, des trucs.
Ouais.
Donc c'est agréable, quoi.
Ouais.
C'est vraiment agréable.
Parce que du coup, il y a des règles quand vous faites un jardin de genre de bonne tenue ou de...
Si, si, quand même, ouais, je crois qu'il y a des règles quand même pour la clôture, pour la cabane, pas qu'elle soit je sais pas quoi. T'sais. Pour le moment, ils ne nous ont jamais cassé les pieds de ce côté-là, mais si, si, je crois qu'il y a des contrôles quand même.
Ouais. Vous, votre jardin, il est clôturé, etc. Et,
clôturé, mais pas vraiment. Donc, ouais, première année, on a vu, c'était un grillage, mais bon, il y avait plein de... Donc là, on a fait une petite clôture un peu avec des palettes, avec... voilà. Après, pour le chapardage, je sais pas. Moi, franchement, ça me... Ouais... Je sais pas, franchement, après il y a des moments où tu dis ouais, il y a des choses qui sont pas là et je m'en fous carrément, tu vois. Comme je t'avais dit la dernière fois, c'est ça le but aussi de faire du jardin, c'est planter des choses et après, bon, les oiseaux, les humains, c'est normal aussi qu'ils viennent et, hein, et qui voilà, qui prennent des trucs, au contraire, ça me fait plaisir, moi, ça me, à la limite, ça me dérange même pas.
Ouais. Est-ce que du coup, toi, le fait de faire du jardin, le fait de. Ça change. Tu produis pour toi ou tu transformes, tu files à des gens, tu...
Bah, c'est vraiment, ouais, justement, ouais, c'est vraiment filer à des gens, quoi. Des amis, de la famille. Moi, pour te dire sincèrement, j'en ai planté, peut-être ouais, j'en plante, mais rarement j'en prends chez moi, quoi. Déjà, je cuisine pas trop, c'est ça le problème. Du coup, enfin, pour le moment, parce que je t'avais dit, on l'a récupéré, donc il y avait plein de boulot, donc on a planté quand même des choses, mais après, c'est plus, voilà, pour le moment, on n'en profite pas vraiment, tu vois.
Ouais.
Donc, si, la première année, il y avait plein de patates, tomates, trucs comme ça. Bon, ça n'a pas marché, les tomates, ça a pourri. Et je crois que c'était pareil pour tous les jardins, c'était l'année passée, même l'année d'avant, je crois que c'était pas une mauvaise saison pour... des mauvaises saisons, justement, parce qu'il y avait plein de pluie et tout. Au moment où ça mûrit, donc à certains moments il y a des maladies, et vu qu'on ne traite pas et qu'on n'a pas envie de traiter, bah voilà quoi, c'est la nature.
Vous, le fait que vous ne vouliez pas traiter, c'est éthiquement, c'est...
Ouais, voilà, c'est, on veut pas quoi, de produits, trucs comme ça. Après on traite avec voilà, des choses un peu à l'ancienne, traditionnelles, ou des petites astuces voilà, qu'on on apprend quoi.
Ouais.
On apprend et ça marche, des fois ça marche pas, voilà. Ça marche sur des trucs et ça marche pas sur d'autres.
Et tu parlais que t'as un pote qui en a fait un en permaculture.
Ouais.
Tu peux expliquer un peu ce que c'est que la permaculture et tout ça?
Alors c'est des buts et après franchement, exactement, parce que c'est assez compliqué quand même, ça dépend en fait, c'est des fois c'est assez compliqué. Et c'est un peu... Mais par contre c'est vraiment bien parce que... C'est une façon aussi que la terre elle se régénère tout le temps, toute seule, sans intervention de. Sans que tu interviennes, quoi. Et c'est plus facile parce que tu n'es pas obligé de bêcher et de rebêcher à chaque fois. Là, c'est juste. Voilà, c'est plus facile à faire. Mais par contre, pour la préparation, c'est une préparation longue, il y a du boulot quand même à faire.
Je pense qu'il y a du coup plein de techniques différentes pour faire leur jardin.
Ah oui, mais il y a plein de techniques justement. Il y a des anciens justement à côté. Il y a il y a des Asiatiques, il y a des gens qui sont du Maghreb, tout. J'ai à chaque fois, même par rapport aux graines aussi, parce qu'on a un voisin qui prend plein de, enfin, de graines de d'ailleurs, quoi. Et t'as plein de choses qui viennent d'ailleurs et tout.
Et moi, je me demandais si tu te sens plus à l'aise ou plus libre ou quoi dans un jardin comme ça. Enfin, c'est quoi la différence quand t'es en ville et quand t'es dans un jardin, en fait?
Là, franchement, c'est une très très grosse différence. Parce que moi, j'étais justement, sincèrement, quand on a pris le jardin, ça m'a changé, mais complètement. Déjà, je passe beaucoup de temps là-bas. Donc, les après-midi, les temps libres et tout, bah, je préfère aller là-bas parce que c'est pas calme, t'es un peu à l'écart de la ville, ça te permet de souffler quand même au lieu d'être un peu en ville. Et voilà, quoi, c'est comme si t'as changé alors que c'est à côté, alors que c'est pas loin, quoi, c'est à côté, mais tu vois, c'est comme si t'as une. Enfin, c'est une petite parenthèse, quoi.
Ouais.
Voilà, j'ai repris le goût alors que. Enfin, j'ai arrêté de lire, enfin je lisais pas beaucoup, et mais depuis qu'on a le jardin, et ben, j'ai repris vraiment goût à lire. Hein.
Ouais.
Tout, je bricole un petit peu, je fais 2-3 petits trucs, je me pose, tu sais.
Ouais.
Et voilà, du coup, ça change complètement en fait la conception de.
Ouais.
Ben, tu changes complètement, quoi.
Et c'est des choses que tu peux pas faire en ville, quoi.
Ben oui, c'est clair, quoi. Parce que même si tu vas dans un parc, ou c'est un peu différent, quoi. Alors que le jardin, parce que t'as des fois tu as une envie de bêcher un petit peu ou de bricoler, bah tu le fais, après tu te poses, tu vois, tu t'organises, quoi. Alors si tu vas dans un parc, et bah, tu te poses, voilà, quoi, t'as pas beaucoup de choses à faire, quoi, en réalité. Alors qu'au jardin, bah, c'est vraiment c'est une autre ambiance, quoi.
Et qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois que petit à petit il y a quelques jardins qui s'uniformisent, que par exemple tous les cabanons ils sont tous les mêmes, tous les trucs c'est tous les mêmes.
Ça c'est vraiment désagréable, quoi. Pour moi c'est vraiment pas le parce que les jardins, justement, c'est ça, c'est qu'à chacun sa façon de faire, à chacun sa façon de je sais pas quoi, tu vois. Et là, quand on voit une uniformisation, justement, ça soit pareil partout, et c'est un peu ce qui se passe actuellement, ça te donne pas vraiment envie de. Parce que c'est pas. Je sais pas, mais. Ouais, c'est un cauchemar, quoi.
C'est parce que
tu vois
cherches.
Pas ça d'un bon œil, quoi.
Ouais, c'est parce que tu cherches, quoi.
Ah non, non, pas du tout, quoi. Pas du tout. C'est que, voilà, c'est à chacun sa façon de faire, à chacun. Justement, c'est plus des expériences, on expérimente, et de voir des jardins pareils partout. Demain, ils vont nous dire, tu sais, pour les graines, ça commence déjà, tu peux pas avoir les graines que tu veux, parce qu'il faut, tu sais. Bah ouais, parce que tu peux pas, par exemple, je sais pas, même pour garder ces graines ou je sais pas quoi, il y a des trucs qui sont un peu réglementés, je sais pas, par rapport à ça aussi. Donc, ça limite quand même, ça limite quand même. T'es pas trop libre, quoi.
Et ça, vous en parlez avec les voisins et tout ça de...
Bah, on en parle avec les potes, les amis, mais pas trop avec les voisins, parce que c'est vrai que voilà, il y en a beaucoup qui sont dans le moule aussi. Hein.
Ouais.
Peut-être consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que j'ai dit, pareil, les nouvelles générations, enfin, les jeunes et tout maintenant, c'est peut-être qu'ils voient les choses un peu différemment.
Dans les jardins un peu récents, là, ils sont dans un jardin avec. Oui, ils réglementent genre les trucs d'eau et tout ça.
Après, je sais pas, avant je connaissais pas trop, je connais pas trop comment ça se passe, mais il y a des jardins où c'est un peu trop strict, quoi. Même par rapport, je sais pas, on demande des choses, et pour les citernes, pour les réservoirs, c'est quand même hyper réglementé, quoi.
Mais après,
il faut que ça soit bien travaillé, tous les coins, il n'y a pas d'herbes sauvages, il n'y a pas ci, tout ça, tu vois.
Mais tu crois que les jardiniers, ils ont une petite marge de manœuvre, ils arrivent quand même à faire.
Si, je crois, santé, ça reste quand même. Une marche quand même de mal. Après, je connais pas trop tous les jardins. Je sais pas comment ça se passe, par exemple, partout, quoi.
Ouais, c'est parce que
t'as beaucoup, en fait, qui sont d'ailleurs, tu le vois rien que tu vois, comme ça de loin, tu vois quand même, c'est uniforme, c'est vraiment après ça dépend des coins, mais là où on est, c'est plus tranquille, si tu veux, de ce côté là
Mais du coup, est-ce que par exemple le fait de faire un jardin, ça développe l'impression que ça donne, c'est que ça peut développer des solidarités ou des
ouais.
liens,
ouais, franchement,
peut-être
ouais.
plus facilement qu'en ville.
Aller largement, en fait.
Ouais.
Les gens ailleurs, peut-être tu vas pas les. Voilà quoi. Tu dis, même entre générations, quoi, que t'as plein d'anciens, ouais, ça passe automatiquement, quoi.
Ouais.
Discussions, ils viennent, parce que t'en as aussi qui veulent parler, qui veulent
ouais.
partager, je sais pas. Mais du coup, ouais, le contact, il est plus facile qu'en ville, ouais, ça n'a rien à voir, quoi.
Mmh.
Et ça se fait vraiment automatiquement.
Ouais.
Ouais.
Et tu penses que ça se fait automatiquement parce que le cadre, il est plus libre qu'en ville, ou c'est
Ah oui, c'est plus... ouais. Il dit, le fait juste de sortir de la ville, je sais pas, mais c'est un autre état d'esprit, pour moi, en fait.
Mmh.
Après, c'est sûr, quand tu fais le jardin et tout, il n'y a pas juste planter... je crois pas qu'on fait le jardin juste pour ça, quoi. Parce qu'à la limite, tu vas au marché, tu peux faire des bonnes... voilà.
Ouais, c'est plus rapide, quoi.
Ça a rien, ouais. Parce que... ouais, tu cherches autre chose, moi, je trouve.
Ouais.
Tu cherches autre chose. C'est juste, c'est pas juste avoir des légumes et voilà, basta, quoi.
Ouais.
Parce que c'est quand même du boulot, faire des allers-retours, hein. Donc tu cherches, je crois, tu cherches autre chose, quoi. C'est autre chose, quoi.
L'émission, elle s'appelle Joie, Rage et Courage. Et du coup, est-ce que pour toi, ça te parle, ce nom d'émission, par rapport au jardin, ou est-ce que...
Ouais, si. Ben, le jardin, ouais, c'est une joie, pour
ouais.
moi, en fait. C'est vraiment une joie immense, je sais pas. Après, peut-être moi, je suis un peu... Voilà, quoi. Toujours rêvé d'être un peu à la campagne, des trucs comme ça, donc... Ça, c'est pas fait, en fait.
Ouais.
Finalement, je me retrouve tout le temps dans des villes. Donc, j'ai bougé, quand même. Et je me retrouve toujours dans les centres-villes et tout. Donc, ouais, ça m'apporte une joie parce que, ouais, je suis en ville, mais je suis aussi un peu à l'écart, quoi.
Ouais.
L'écart de la ville. Donc,
ouais.
C'est des moments où
ouais.
tu t'éloignes un petit peu. De la rage, ouais, un petit peu, par rapport à ce qu'on disait, justement, la réglementation, et que ça soit strict. C'est de plus en plus que ça soit réglementé et que ça soit... Hein,
ouais.
Ce côté-là, ouais, il y a un peu de... Ouais, qu'on ne laisse pas la liberté aux gens, justement, de faire ce qu'ils veulent, à leur façon, hein, d'expérimenter peut-être autre chose, rien que... On disait, par rapport aux graines, par rapport aux produits, tu sais, produits qu'on nous vend et qu'on nous abâche, parce qu'apparemment, le bricolage, le jardinage, c'est vraiment à la mode, c'est beau, tu sais. Quand tu regardes les publicités, les trucs et tout, ouais, mais bon... Mais quand même, c'est ça, c'est des foutages de gueule, parce que c'est des produits dégueulasses et tout. Et voilà, quoi, on sait tous ce que ces produits-là, hein.
Ouais.
T'as la limite, ouais, il faut pas y avoir d'insectes, de trucs, de rongeurs, alors que c'est ça, les jardins, il faut avoir
ouais.
de tout, des
ouais.
tops.
Ouais.
Et voilà, quoi, et t'as des années, ça marche, t'as des années, ça marche pas, et bah tant pis, s'en fout. Parce que il n'y a pas que ça, quoi, on s'en fout, c'est ça produit pas, que ça donne pas trop, que ça donne un petit peu, ça va, quoi. Et c'était quoi le travail? Rage
Rage et courage.
Et courage aussi, parce que le jardin, franchement, ça te demande aussi ça. Parce que quand on l'a récupéré, ça faisait des années que le jardin n'a pas été fait, en fait. Parce que...
Est-ce que ça te donne du courage pour aller après à bosser à l'ETRA?
ouais, je sais pas, ouais, ça recharge un peu les batteries, mais bon, après, si, quand même, un petit peu, ouais, un petit peu, ça te permet de souffler, d'oublier un petit peu, de, voilà, quoi, sortir du cadre, ouais, du boulot, de ça, quoi. La joie, surtout, je reviens à la joie, c'est plus, voilà, parce qu'on a, on fait... Vu que c'est, on se regroupe avec des amis, on passe plus de temps avec les amis,
ouais,
on se capte plus souvent, et ça se fait tout naturellement, voilà, quoi. Ah, t'es là, s'il y a un truc à bricoler, tu le fais avec, sinon tu t'es là, tu te poses. Et nous, c'est justement ça, le but, que ça soit ouvert à nos potes. Genre.
Et voilà donc une interview de Malek, qu'on remercie énormément. Et en fait, il dit plein de trucs qu'on va essayer de développer là sur... en fait, on voit bien entre l'idée des jardins de Volpette et ben ce que dit Malek, et ben, il y a un glissement. Il y a un glissement parce que les jardins ouvriers, ce n'est plus simplement un enjeu économique et un intérêt économique pour les jardiniers. C'est surtout un intérêt humain et sociale de faire les choses différemment, librement et puis collectivement comme, comme il le dit. Collectivement, quand une parcelle est partagée comme, comme là c'est le cas, mais aussi collectivement parce que indirectement, le fait d'être dans un espace comme les jardins ouvriers, une section, ça pousse à, au croisement, aux solidarités entre jardiniers. Même si, bien sûr, il peut y avoir des travers comme un système de contrôle ou de regard différent sur des pratiques différentes comme les pesticides ou pas, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est un espace où du coup, des gens se retrouvent et s'organisent et puis installent un espace de liberté. Ça c'est pas forcément les désirs des autorités à la base. Et puis là il y a un autre glissement aussi dans les volontés de l'autorité. Le pouvoir a besoin non seulement de contrôler les espaces de solidarité entre les individus, mais aussi de casser et de contrôler des choses qu'ils peuvent récupérer. Comme il nous l'a bien dit, le jardin et les espaces verts en général, c'est un enjeu aussi dans une démarche pseudo bio écolo machin truc COP21 du pouvoir de dire on fait des choses pour les espaces verts, pour manger mieux, vivre mieux. Mais manger mieux et vivre mieux, c'est peut-être manger et vivre sans contrôle. Et pour ça, il faut garder les jardins autonomes. Mais l'autonomie et la liberté, c'est pas forcément allié avec la question d'autorité. Et donc, c'est pour ça que les autorités, qu'est-ce qu'ils font depuis quelques années, la réappropriation des jardins et de plus en plus d'exigences sur les sections. Ne serait-ce que la question de la réquisition des terres, qui est vraiment très difficilement acceptable pour lui, et puis aussi pour la question de on réduit les parcelles, la taille des parcelles, le nombre de parcelles, on uniformise, on demande à ce qu'il n'y ait plus de cabanes auto-fabriquées, on ne tolère plus on veut que toutes les parcelles soient de la même taille, avec des lignes droites, et ça c'est un élément important dans la question paysagère en fait. La question de la régularité géographique, c'est un enjeu de contrôle. C'est pour ça qu'en ville, tout est en ligne droite, tout est carré, tout est sous contrôle. Les jardins ouvriers, eux, pas forcément droit. Il y a des allées, des sentiers qui s'accordent avec la topographie des lieux, les contraintes de la terre et aussi ce qu'elles peuvent apporter. Et du coup, c'est plus toléré. Les choses se cadrent, les parcelles se rectangularisent. Les réserves d'eau s'uniformisent et les cabanes aussi. Et ça, en fait, c'est une tentative de réappropriation de l'espace et des pratiques où les personnes peuvent se constituer une autonomie et une sociabilité différente hors de contrôle de l'autorité. C'est aussi, du coup, comme on l'a peut dire, la question de que l'autorité elle laisse plus les espaces se faire réapproprier, et ça on va le voir avec un petit montage de son venu de Dijon. Dijon, c'est donc la petite ville, une ville dans Côte d'Or où il y a tout un brassement dans un quartier autour d'un espace, un ancien espace maraîcher réapproprié où il se passe plein de choses. On va du coup revenir par ce montage par un petit historique du quartier libre des Lentillères, une présentation et puis des extraits de discussions des échanges avec les urbanistes et enfin un extrait d'un texte lu lors d'une manif en 2014. Allez, écoutons ça.
L'occupation a commencé le 28 mars 2010
avec une manifestation qui est partie presque du centre-ville, fourche en main, pour tenter de venir cultiver une partie de ces terres. Et on voulait déjà occuper ces terres pour pas qu'elles soient bétonnées. On voulait le faire collectivement et de manière horizontale, c'est-à-dire sans chef, avec des décisions réfléchies collectivement, au consensus, de manière autogérée. Il y a actuellement trois dynamiques de vie sur cette friche des Lentillères, qu'on peut dire quartier libre des Lentillères, enfin qu'on revendique comme tel et qu'on fait vivre comme tel. La première composante, c'est ce qu'on appelle le potager collectif des Lentillères. Cette grande parcelle, à peu près 3000 m2, et l'ensemble de ce qu'on appelle la friche des Lentillères, qu'on essaie de sauver du béton avec une grosse partie de très bonnes terres maraîchères, c'est à peu près autour de 7 hectares, quoi. La deuxième dynamique, je dirais que c'est les petits jardins, une cinquantaine de petits jardins qui vivent avec plein de gens, là aussi une grande variété finalement générationnelle, sociale, ici, culturelle, etc. Et la troisième dynamique pour finir, donc, c'est la ferme des maraîchers. Il y a entre, je dirais, 5 et une dizaine de personnes qui le font vivre depuis le printemps 2012. Leur objectif, c'est de produire quand même de manière plus importante des légumes, déjà pour se nourrir, ce collectif qui fait vivre l'affaire des marchés, mais aussi tous les autres collectifs ou personnes qui vivent sur cette zone ou qui la soutiennent. Aussi de proposer un marché une fois par semaine à prix libre pour justement que ce soit accessible, de pouvoir aussi avoir des légumes bio, bon, même si on ne s'occupe pas du label, hein, mais c'est sûr qu'ici on cultive sans entrants chimiques. Parce que le seul moment où ils ont jamais accepté de recevoir un groupe de gens, en disant que nous, on était des gens qui n'avions pas de projet, on leur a dit qu'on n'avait pas de projet à présenter, mais le projet, on le vit, quoi. D'abord, on l'a réfléchi et on le vit. Ah, mais bon, ça ne rentre pas dans leur tête à eux. Mais en tout cas, une fois, ils ont dit, le prix Bétiche, leur présentant un peu qui on a affaire là, de l'urbanisme, il avait dit, mais on vous a entendu, on va même doubler la surface que vous cultivez. La preuve que ne vous faites pas de soucis. Donc, à ce moment-là, il n'y avait que la parcelle collective, ouais, ça faisait à peu près 3000 m2, donc on va geler sur le futur projet, alors qu'on n'en avait pas l'intention, 7000 m2. Donc 7000 m2, ça fait même pas deux tiers d'hectare. Donc on dit, ok, d'accord, c'est ce qu'ils appellent, on vous a entendu, et voilà.
Mais ils l'ont vraiment fait, dans les plans,
ouais, ils l'ont vraiment
les plans d'éco-quartier, quand on a vu le cabinet d'architectes, ils sont défendus au moment où on était allé les voir un peu pour gueuler, en disant, non mais on vous a pris en compte, regardez la surface des jardins, là, là, et elle a doublé, et elle représente 7000 m2, ce qu'elle double de ce qu'on cultivait. Il parlait à l'époque juste de la plus petite parcelle du potager collectif, donc ce qui n'est plus du tout le cas, quoi. Mais parce que je pense clairement, dans leur plan d'aménagement, ils savent qu'il y a des moments où, vu qu'il y a une contestation, il va falloir qu'on améliore. Je pense que leur plan n'est pas complètement définitif et ils vont rajouter des petits trucs par-ci par-là. Après, c'est leur manière de rajouter des espaces verts dans un cabinet d'architecte. C'est que tu arrives à mettre des bouts de pelouse par-ci par-là, qui fait qu'à la fin c'est cumulé, mais en fait tout est agencé pour que.
C'est quoi l'entreprise?
Nicolas Michelin, une grosse pointure qui a été recruté pour refaire le ministère de la Défense à Paris.
Si tant est que demain les bulldozers viennent arraser les dernières terres maraîchères et le premier quartier libre de Dijon, sur le terreau de la spéculation et des rêves de grandeur des notables locaux, nous n'aurons pas tout perdu. Nous avons déjà gagné 4 ans à semer dans les esprits les graines de l'émancipation, de notre alimentation, les savoir-faire paysans, les valeurs de solidarité et de résistance. Mais nous n'avons pas l'intention de baisser nos fourches. Nous appelons aujourd'hui et dans les mois à venir tous les sympathisants et habitants d'ici et d'ailleurs à nous rejoindre dans les sillons potagers de l'engagement pour une autre ville, une autre alimentation, pour que perdure ce lieu qui les sème ailleurs et que pour que chacun puisse encore venir y jardiner, apprendre, partager et écouter les oiseaux.
Et voilà, Dijon, ce qui se passe, on reviendra dessus après un petit morceau. Un petit morceau, et ben comme à chaque fois avec l'émission, et ben on demande aux gens qu'on rencontre de faire la playlist. Et donc, et ben on va voir ce que Malek nous a proposé.
D'autres ils dire, ouais, il y a une chanson à dire. Ouais.
Laquelle?
Zuit, c'est une chanson assez festive. Qui parle un peu, ouais, la fête et tout. Ouais, c'est, ouais.
Ok.
Ouais.
Hier. Et ben voilà, donc comme on a pu le voir à Dijon, et ben il existe du coup des tentatives de réappropriation des espaces pour en faire des terres maraîchères et des terres de rencontres d'organisations, de luttes face au monde qu'on nous impose. Et cette expérience dijonnaise qui dure du coup depuis 4-5 ans, elle n'est pas unique. Il existe des jardins comme ça sur l'île. Il y en a eu des plus éphémères ailleurs comme à Angers. C'est peut-être un autre terrain de lutte. Comme il peut y avoir des terrains de lutte sur l'espace agricole, comme le mouvement Reclaim the Field en milieu rural, peut-être en ville, ça peut être un enjeu aussi. Et donc sur Saint-Étienne, l'enjeu de se réapproprier les jardins ouvriers, ne pas les laisser s'uniformiser et puis rencontrer, s'organiser et puis construire autre chose qui peut nous amener vers plus de liberté et d'autonomie. Pour ce numéro de Joie, Rage et Courage, on s'est bien éloigné des sales idées de la baie Volpette. On pourrait retrouver des textes, notamment un texte très bien qui s'appelle « Contribution à une géo-histoire des jardins ouvriers », qui est trouvable à la médiathèque de Tarentaise. Mais aussi, on va mettre des liens vers des sites, des liens vers des reportages sonores qu'on a pillé, et puis quelques liens vers des brochures sur le site Joie, Rage et Courage, où l'émission est réécoutable, ainsi que sur le site de Dio. Vous pourrez également, sur le site Joie, Rage et Courage, télécharger l'émission, et puis aller un peu plus loin. On a mis aussi des petites vidéos, donc ça, on fera ça dans la journée. Pour finir, je voulais glisser un petit mot par rapport à la dernière émission. On vous parlait de la lutte contre la THT en vallée de Haute-Durance. Là-bas, la lutte s'organise quasiment quotidiennement. Des rassemblements ont lieu, des balades ont lieu dans la forêt pour empêcher la déforestation et la construction des pylônes. Une pensée aux personnes en lutte dans ces montagnes, et puis une grosse pensée aussi à tous ceux et toutes celles qui refusent de rester chez eux. Il faut sortir et il faut se manifester, et donc une pensée aux personnes de République d'hier soir qui se sont fait bien comme il faut incarcérer, gazer et blessé avec des grenades assourdissantes. Bref, c'est le moment de sortir, de ne pas rester trop sage et d'aller dans la rue. On va finir par un petit morceau de Burning Kitchen, et c'est une chanson qui s'appelle Pretty Shitty City. C'est une jolie petite ville de merde. Au mois prochain, on va vous parler certainement, on hésite encore, soit de la délinquance juvénile chez les filles, soit de loi sécuritaire, parce que c'est un peu le truc du moment. Bref, on verra. En attendant, soyez pas trop sages et rendez-vous dans la rue. Ciao !